9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour, bonjour
Philippe. Faut-il vous présenter? Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. En 88, c'est une chanson à vous qui a été élue chanson du siècle. Devant Jean-Jacques Goldman, Trainet, Brassens, Édith Piaf ou même Désirless, c'était ce titre.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi.
Votre actualité, Yves Dutheil, c'est un ouvrage de souvenirs dans lequel vous parlez de cette chanson, mais évidemment pas seulement. Ça s'appelle Chemin de liberté. C'est publié aux éditions de l'Archipel et c'est accompagné, c'est assez rare pour être signalé, d'un album et même d'un coffret de 4 CD, les chansons du livre. Vous y racontez dans cet album vos engagements, engagements qui éclairent souvent vos chansons. On a entendu au Parc Monceau, cette chanson raconte une part de votre enfance. Il n'est pas encore question d'engagement dans le Parc Monceau.
Non. Surtout que je dis, au Parc Monceau, les cours d'histoire avec bon dos.
Voilà. Alors, c'est un ouvrage chronologique. Vous racontez vos débuts dans la musique au Petit Conservatoire de Mireille. J'avoue que j'avais oublié ce passage-là. Enfin, je ne regardais pas à l'époque. J'avais mes parents pas la télé. Je ne vais pas donner mon âge. C'était les années 60. Et vous dites que Mireille avait inventé The Voice avant l'heure. Elle n'avait pas eu l'idée des auditions à l'aveugle quand même, si?
Non. Mais moi, j'avais été sélectionné sur les bossas. J'adore la bossa nova.
Ouais.
Et toute la musique brésilienne. Et elle ne voulait que ça. Et j'ai réussi à trouver un échappatoire avec les duos.
Mmh.
Parce qu'elle adorait quand deux élèves faisaient ensemble un duo. Alors j'ai écrit des duos que j'ai chantés avec des membres du Petit Conservatoire. Et voilà, je me débrouillais pour toujours essayer d'être choisi.
Mmh.
Parce qu'il y avait l'émission de radio, l'émission de télévision, qui ont été mes premières émissions de radio, mes premières émissions de télévision.
Ouais.
Donc on rêvait tous d'être choisi. Parce qu'évidemment, tout le monde ne passait pas.
Bah, évidemment.
Et alors je faisais des bossas. Et des duos.
Vous aviez quel âge?
19-20 ans.
Si aujourd'hui vous deviez démarrer, est-ce que vous participeriez à une émission de télé de ce genre, un télécrochet, The Voice ou Starac ou Nouvelle Star si ça existait encore?
Alors, j'ai participé par exemple au festival de Spa.
Ouais.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée et un début de réponse, dans cette même session du festival de Spa, où je représentais d'une certaine manière la France,
ouais.
On était avec Souchon, et Souchon, il n'avait pas eu de prix du tout.
Ouais.
Moi, j'en avais eu.
Mais il y a quelque chose de différent.
Je trouvais ça très injuste.
Dans les émissions d'aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. C'est qu'on met aussi sa vie privée en avant, il y a des papiers sur vous, vous êtes scruté sur les réseaux sociaux. C'était ça aussi le sens de ma question. Est-ce que ça part un peu dévoyé, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est une très bonne chose, l'esprit initial de la chanson?
Moi, je ne dénigre pas les émissions de ce type, parce que Je le constate en les regardant, il y a du talent. Il y a vraiment du talent chez les artistes et aussi chez ce qu'on appelle les coachs.
Mm-hmm.
Mais c'est ce côté éliminatoire qui me met un peu mal à l'aise. Parce qu'on fait un métier...
Pardon,
où
Souris voudrait que ce soit comme l'école des fans de Jacques Martin.
Voilà,
ils ont tous gagné.
Ils ont tous gagné.
Ils ont tous 10.
Allez, mais en fait, ce métier, c'est un métier de dépassement de soi. C'est pas un métier de dépassement des autres.
Mm-hmm. Si vous avez signé votre premier contrat d'artiste en juin 72, c'était la chanson Virage, coup d'essai, coup de maître. Elle est restée 13 semaines numéro 1, je vais le dire, au tremplin Europe numéro 1, on disait numéro 1 à l'époque, sur Apple Music. J'en ai trouvé 9 versions. On va écouter quelques notes, c'est la version originale, la version de 72.
Passeront les jours et les semaines et les années, tant que je t'aurai à mes côtés. Dans chacun des gestes de la vie, je t'aimerai aussi.
C'est toujours votre chanson fétiche ?
Toujours. C'est incroyable, cette chanson a marqué en fait ma carrière, mais je m'en suis jamais lassé parce que justement on a essayé de renouveler à chaque fois l'arrangement, la façon de l'aborder,
ouais.
De façon à ce que nous, sur scène, on ait toujours cette passion, cette envie ce plaisir.
Et vous la chantez toujours de manière aussi énervée qu'en 72 ?
Un peu moins énervée, je me suis calmé. Non, mais la version, j'adore la version qu'on fait en ce moment. D'ailleurs, elle est dans l'album.
Ben évidemment.
Parce que dans cet album de 75 chansons, il y a 16 nouvelles versions inédites.
Ouais. Yves Dutheil avec nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser, beaucoup de récits, beaucoup d'engagement dans ce livre Chemin de liberté. Vous restez avec nous, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yves Duteil qui publie Chemin de liberté, c'est une sorte d'autobiographie dans laquelle il raconte sa vie, ses chansons, ses engagements. Et c'est publié aux éditions de l'Archipel. On ne peut pas parler de vous sans parler de la fameuse chanson Prendre un enfant par la main, dont on a entendu quelques notes tout à l'heure. On sait que vous êtes très pudique. Toutefois, Yves Duteil, pudique, mais vous étiez passé chez Mireille Dumas, qui avait cette émission Vie publique, vie privée, où beaucoup de choses se disaient à son micro et devant ses caméras. Et là, vous avez fait une confidence assez incroyable. Vous racontiez quand vous étiez petit garçon, votre père, pour vous dire bonjour, vous serrait la main.
Oui. Il rentrait à la maison, il disait « Hello boy ». Et ça, ça m'a effectivement frappé, parce que moi, j'étais plutôt démonstratif et sentimental dans mes relations affectives. Et donc, ça manquait. Mais en même temps, j'ai pu rattraper ça très tard, au moment où mon père est parti.
Mais est-ce que c'est le sous-texte de prendre un enfant par la main ?
Ah non, 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 pas du tout. C'est vraiment notre histoire, ça, notre histoire familiale, à nous, les Duteil. On n'était pas une famille très expansive. Mmh. Voilà. Et moi, je me sentais vraiment très, très heureux de montrer mes sentiments. Et donc, je me sentais un peu frustré. Mais
l'époque aussi était comme ça.
Et puis, il y avait une grande différence d'âge avec mon père. Ce qui fait qu'on s'est un peu loupé avec mon père. Mais au moment où il est parti, il était dans le coma. Et il s'est passé un truc très, très émouvant.
C'est dans le livre, raconté.
En fait, je devais chanter. C'était Alice Donna qui m'avait invité pour chanter avec plein d'artistes dans un spectacle à Bobino. Et mon père était à l'hôpital. Et Noël, mon épouse, donc, me dit « Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais plutôt être avec ton père ce soir ?» Il n'était vraiment pas bien. Et j'ai dit « Oui, t'as raison ». Et donc j'ai appelé Alice, je lui ai dit « Écoute, je suis désolé, mon père est vraiment pas bien ». Elle me dit « Mais aucun problème ». Je suis allé voir mon père. Et je me suis retrouvé seul dans la chambre avec mon père qui était dans le coma. Et j'ai pris sa main et je lui ai parlé. Et je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire, que je n'arrivais jamais à lui dire. Qu'il avait été un bon père. Qu'il pouvait être fier de sa vie. Et de ce qu'il avait fait de ses enfants en leur donnant cette notion de la droiture, de l'honnêteté. Et puis l'infirmière, très tard dans la soirée, est venue me voir en me disant « Vous savez, vous devriez rentrer, là il ne va plus rien se passer, tout va bien. Si jamais il se passait quelque chose, on vous préviendrait. » Et donc je suis rentré à la maison. Et le lendemain matin, il était parti. Donc cette dernière conversation qu'on a eue ensemble, ça a été un moment extraordinaire parce que, en fait, je savais qu'il ne pouvait pas ne pas m'entendre. Et du coup, je sais qu'on a eu cet échange. Et ça m'a énormément apaisé.
Je reviens à cette chanson, « Prendre un enfant par la main », qui a eu une énorme incidence sur votre carrière. Carrière que vous utilisez le mot vous-même avec les deux sens du mot. D'abord, vous racontez que vous avez mal géré le fait que cette chanson ait justement été désignée en 88 par les Français comme la chanson du siècle. Vous vous dites, sous le choc de cette distinction inattendue, et vous n'arrivez carrément plus ni à composer ni à écrire des textes. À ce point-là.
Oui, heureusement, c'est arrivé 10 ans après la sortie de Prendre un enfant. Donc j'avais déjà écrit entre-temps. Donc je savais que c'était une façon, c'était quelque chose entre moi et moi. C'était ouais. Pas une réalité. Je savais très bien que je pourrais recommencer à écrire. Mais la question c'était, qu'est-ce qu'on écrit une fois qu'on a écrit la chanson du siècle ? Et ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de très profond où on se pose vraiment la question de savoir qui on est. Et à quoi on sert, en fait? Qu'est-ce que j'apporte de plus? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis passé devant tous les gens qui m'ont donné envie d'écrire?
Vous savez quoi? On va rester sur cette interrogation. Vous restez avec nous, Yves Duteil, évidemment, jusqu'à 11h. Et dans un instant, notre première indispensable avec Margot Barallon, qui va nous parler d'une nouvelle série à consommer avec modération. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yves Duteil, Chemin de liberté, c'est le titre de ce livre, manière d'autobiographie qu'il publie chez l'Archipel, beaucoup de combats. Avec vous Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On découvre toutes les semaines de nouvelles séries et là c'est une sorte de chemin de liberté car aujourd'hui
Exactement. Vous
nous conseillez d'aller regarder du côté de Prime Video qui est la plateforme d'Amazon, mais pour regarder quoi ?
Eh bien un petit bijou, la série s'appelle The Underground Railroad, 10 épisodes disponibles aujourd'hui. C'est en réalité l'adaptation d'un roman prix Pulitzer en 2017 et l'histoire se déroule dans le sud des États-Unis en 1850. Donc nous sommes dans une plantation de coton avec des esclaves, des maîtres cruels, un racisme très ancré et bien sûr ces coups de fouet à toute heure du jour et de la nuit, même pendant le déjeuner et même devant des invités.
Je ne comprends pas comment vous pouvez déjeuner devant un tel spectacle. C'est quand même particulier de manger et boire pendant qu'on arrache la peau d'un homme à côté.
Monsieur Churchill, votre première erreur, c'est qu'un nègre et un homme sont deux choses différentes. Un homme peut penser, raisonner et aimer. Les nègres n'en sont pas capables.
Alors évidemment, hein, tout ceci est insupportable et un esclave, César, va donc décider de s'échapper avec l'une de ses amies, Cora, qui a au départ beaucoup de mal à accepter l'idée de fuir.
Je m'en vais vers le nord. Bientôt. Je vais m'enfuir et je veux que tu viennes avec moi. Je te fais confiance, je sais que tu ne vas pas me balancer, mais je pars loin, je dois partir.
Pourquoi tu veux que je vienne ?
Mais alors, bonne chance.
Bonne chance ? Écoute-moi bien, César. Je sais que tu n'es pas dans cette plantation depuis longtemps, mais s'il y a bien un truc que tu devrais avoir compris, c'est qu'ici, personne n'a la chance.
Précisons, la série est en anglais, évidemment. C'est nous qui avons rajouté des voix pour qu'on puisse, ça puisse se comprendre à la radio.
Exactement, mais je vous conseille évidemment de la regarder en VO. Alors, finalement, Cora va se laisser convaincre et ils vont emprunter ensemble la fameuse Underground Railroad du titre. En français, on a appelé ça les chemins de fer clandestins. C'était en fait des réseaux de passeurs qui aidaient comme ça les esclaves à fuir vers le nord des États-Unis et le Canada.
Donc, la série s'appuie sur une vérité historique.
Oui, mais vous allez voir, pour mieux s'en éloigner, et c'est là que je trouve ça génial, par exemple, c'était déjà le cas dans le roman, l'Underground Railroad devient un train qui passe littéralement underground, sous terre. Alors évidemment, ça n'a jamais été le cas en réalité, mais c'est une allégorie qui fonctionne très bien pour montrer la clandestinité de cette fuite. Et des allégories, on a comme ça tout le temps. Le voyage de Cora et César va les mener dans plusieurs États qui ont tous une politique raciale différente. Certains ont par exemple aboli l'esclavage, mais les Noirs sont tout simplement interdits et donc tués dès qu'ils mettent le pied sur le territoire. Dans d'autres, on les utilise aussi pour des expériences scientifiques.
Effectivement, là, on s'éloigne totalement de la réalité.
Voilà, historiquement, rien n'est complètement vrai. Et pourtant, eh bien, la série dit tout des relations entre les Noirs et les Blancs, de la sauvagerie et du poids surtout que cette histoire esclavagiste fait peser encore aujourd'hui hein, sur les États-Unis. C'est une grande fresque, cette série, de plus de 10 heures et c'est vraiment passionnant.
Ça donne vraiment envie. À qui on doit cette série, Margot ?
À un réalisateur qui s'appelle Barry Jenkins, oscarisé en 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Moonlight, film sublime que je vous conseille aussi au passage.
Oui, mais comme je ne l'ai pas vu, le titre me dit quelque chose, mais je ne vais pas mentir.
Oscar du meilleur film. Donc ça, c'est sa première série, tout aussi sublime. C'est un cinéaste qui sait prendre son temps. Sa mise en scène, elle est parfois un peu maniérée, mais magnifique, avec une photographie et une bande-son très soignée. Voilà, partition signée Nicolas Britel. Et finalement, quand vous parlez comme ça d'un sujet qui est quand même lourd, violent, avec des images très dures, eh bien, cette esthétique et cette musique vont venir apporter la douceur, la lumière. Pas du tout le genre de série qu'il faut binge-watcher, regarder en boucle, vraiment plutôt savourer. Il faut se laisser imprégner par chaque épisode. Mais je vous promets que vous ne le regretterez pas.
Yves Duteil, ça vous a intéressé ?
Ah oui, oui, oui. Ben oui, parce que d'abord, la musique était tout à fait en adéquation avec ce que vous étiez en train de dire. Et puis parfois, il y a des surprises quand même dans les séries, il y a des choses... Voilà, là, tout ce que vous racontiez, c'était tellement horrible, tellement monstrueux, que c'est en fait le reflet aussi d'une part de la nature humaine qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le traitement inhumain de certains vis-à-vis d'autres, des holocaustes ou des crimes contre l'humanité qui sont tellement inimaginables que demain ils seront jugés comme tels, encore comme étant d'aujourd'hui. Donc demain, ce sera les animaux, et peut-être après, les arbres aussi. On prendra en compte le peu de cas qu'on fait de nos pères, le monde végétal, le monde animal, etc.
Et en parlant de vos pères au sens d'aïeux, autre genre de combat, autre genre d'injustice qui vous intéresse, Yves Duteil, j'ai découvert, je ne le savais pas, alors je l'avoue, vous avez fait une chanson, mais je ne le savais pas, vous êtes l'arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus.
Je suis le petit-neveu.
Petit-neveu.
C'était mon grand-oncle.
Oui, c'était votre... J'ai écrit neveu, j'aurais dû... Je ne l'ai pas lu.
Effectivement, ça marque. C'est une empreinte très importante sur ma vie, qui a longtemps été une ombre, Un jour, j'ai décidé que cette ombre passerait dans la lumière et que je ne serais plus porteur de ce silence, mais de quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui est l'héroïsme, en fait, la loyauté incroyable de Dreyfus, le destin de Zola.
Ce qui est complètement dingue, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que vous n'en parliez pas, il y avait une sorte d'omerta dans votre famille, alors que ce n'est pas du tout honteux. On va rappeler le titre de la série à voir sur Amazon Prime Video, Margot Barallon.
The Underground Railroad.
Merci beaucoup, Margot, et vraiment bravo pour votre accent. Enfin, vous avez d'autres talents. Tout de suite, on va écouter une nouveauté. Alors écoutez bien, c'est l'hymne de l'Euro de football 2021. Ça s'appelle We Are the People. C'est signé Martin Garrix avec Bono et son guitariste The Edge, le guitariste de U2. We Are the People, Martin Garrix.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that works from a broken place. That's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
C'était We Are The People de Martin Garrix avec Bono et son guitariste The Edge, son guitariste dans U2. L'Euro de football, c'est l'hymne de l'Euro de football qu'on vient d'entendre là. C'est une nouveauté. L'Euro de football commence dans un mois, le 11 juin. Et ça sera à suivre évidemment sur Europe 1. À suivre dans Culture Média, on parlait gastronomie. Charlotte Langrand nous sert des plats à savourer bientôt, mercredi, en terrasse.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yves Duteil, les chemins de la liberté, ces chemins peuvent peut-être nous conduire en terrasse. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour Yves Duteil.
Le
bonjour.
Compte à rebours est lancé, J-4 avant de retrouver les terrasses le 19 mai.
Exactement, fermez les yeux pour voir. Imaginez votre chaise en rotin, vos lunettes de soleil, votre journal et votre bavette saignante, sur la table, le bruit des verres et des conversations. Et puis à côté, un voisin qui appelle le serveur un peu comme ça.
Garçon, deux autres pastis. Ah, attendez, avec des croissants.
Avec des croissants.
avec des croissants. Lui, c'était Belmondo, à la terrasse des 2G, des deux garçons à Aix-en-Provence, dans le film À double tour de Claude Chabrol. Ça donne envie d'être mercredi,
non ? Tellement, mais même avant ce qu'il y a dans l'assiette, c'est des moments de vie très très ancrés dans le quotidien,
c'est
la terrasse.
C'est ça, c'est du lien, c'est du partage. D'ailleurs, après le premier confinement, hein, près de 80% des Français ont dit que c'était le café qui leur avait le plus manqué. C'est pareil pour les terrasses, elles existent quand même depuis le 17e siècle. Elles ont pris leur essor pendant le Second Empire, hein, quand Haussmann a élargi les rues à Paris. C'est là que l'idée du café à la française est née. Puis bon, récemment, bien malgré elles, elles sont devenues aussi le symbole de notre liberté après les attentats. Mais en tout cas, le café, la terrasse, ce sont les emblèmes de l'art de vivre à la française. Hein, les chaises en rotin, le serveur en habit, le café noisette au comptoir. Et puis, c'est aussi l'art de ne rien faire, de converser, d'écouter les discussions des voisins, d'observer, bien sûr, mais pas du tout, de lire, de boire l'apéro, de se donner des rendez-vous amoureux, enfin. Il y a même une association, figurez-vous, qui milite pour l'inscription de nos bistrots au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Normal.
Bah oui, en tout cas, ils sont déjà quand même très bien ancrés dans notre patrimoine cinématographique.
Bon, qu'est-ce que vous prenez ?
Je sais pas, ce que tu veux, mon grand.
Pardon ?
Ce que t'as envie de nous servir, ça ira pour moi.
Bon, j'ai pas le temps de plaisanter. Là, je travaille, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire ?
T'énerve pas. Sois cool, mon grand.
Attention, toi, là, tu m'appelles pas mon grand, connard, hein ?
Mais cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Là, t'es déjà jaune comme un coin, ouais.
C'est Daroussin.
Ça, c'était Daroussin, dans Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré. Alors, comme lui, mercredi, pas de quoi s'énerver, hein. On est content d'être là, même s'il y aura sûrement quand même un peu d'excitation chez les clients.
Alors, tiens, qu'est-ce qu'on va commander la semaine prochaine, selon vous, Charlotte ?
Alors, ça dépend bien sûr de l'endroit où vous êtes, mais il y a quand même quelques incontournables du genre. Hein. En région, je vous propose par exemple un tartare de maigre ou de bœuf, au couteau bien sûr, au bistrot de Christopher Coutenceau à La Rochelle, des quenelles maison ou une blanquette de veau au bouchon comptoir Brunet à Lyon. À Paris, bah, pourquoi pas un petit œuf maillot au bistrot Le Petit Canon, un boudin noir avec une moutarde au miel au Café des Ministères. Pourquoi pas aussi la terrasse de la Lorraine pour votre premier fish and chips ou quelques huîtres, ou carrément une côte de veau grillée à la brasserie Bélanger qui se transforme en guinguette tout l'été.
Allez, arrêtez, parce que moi j'ai envie de tout. Ça va vraiment être difficile d'attendre, on a déjà envie d'y être.
Bah écoutez, allez, je suis sympa pour patienter ce week-end. Je vous donne la recette de l'œuf maillot, mais alors pas n'importe laquelle, parce que c'est celle du champion du monde de l'œuf maillot 2019, ça existe, c'est le bouillon Pigalle, qui réouvrira le 9 juin. Alors vous faites cuire les œufs pendant 7 minutes dans l'eau bouillante. Pour la maillot, vous émulsionnez un jaune d'œuf avec une cuillère à café de moutarde, 25 centilitres d'huile de pépins de raisin. Vous voulez la verser très lentement en filet. Vous faites tiédir une cuillère à soupe de vinaigre avec une pincée de sel et de poivre. Ouais. Vous versez le tout sur la maillot en continuant de fouetter. Vous coupez les œufs en deux. Vous nappez très généreusement, s'il vous plaît, de mayonnaise. Vous ajoutez dessus un petit peu de ciboulette ciselée ou plus chic, des copeaux de poutargue. Hein, c'est des œufs de poisson séchés. Et le tour est joué. Et puis vous priez pour que mercredi, il fasse beau.
Ouais, mais avec ça, on va être champion du monde. Vous êtes cuisinier, Yves Duteil ?
Cuisinier, c'est un grand mot. Non, moi, je suis plutôt sur la pâtisserie.
Ouais.
Mais quand Noël fait la cuisine, je suis petite main.
Noël, votre épouse. Ouais. Et les terrasses, vous attendez, vous comptez les jours comme moi ?
Mais oui, on a même laissé, on a un petit restaurant où on va, quand on se dit, tiens, on va se faire une petite fête, et on a tellement envie de les soutenir, on les a appelés en leur disant, écoutez, voilà, le jour où vous rouvrez, on sera là. Je crois qu'il faut soutenir nos restaurateurs, nos bistrots, nos cafés et les terrasses, parce que c'est un peu du ciment de l'humanité.
Wow, du ciment, l'humanité. Demain, à la table des bons vivants, Charlotte, c'est 11h, 12h30 avec Laurent Mariotte à la présentation.
Oui, ça sera au programme de beurre, crème, fromage. On est en direct du Calvados dans une ferme familiale dans le cadre de la semaine de l'agriculture française. Et notre invité, ce sera Gaëtan Roussel.
Waouh, vous y serez ?
Oui, bien sûr.
Elle part tout de suite après, elle prend le train pour le Calvados. Merci beaucoup, Charlotte Langrand.
Merci beaucoup.
Nous, on se retrouve dans un instant. C'est la dernière partie de l'émission. Yves Duteil est notre invité. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Yves Duteil, Chemin de Liberté, c'est ce livre dans lequel vous racontez votre vie, votre existence, vos combats. Je parlais de carrière et je disais que vous donniez deux sens à ce terme dans le livre, parce qu'il y a aussi une carrière dans le village où vous habitiez, plutôt qui devait s'ouvrir et en partie détruire l'environnement. Et ça a changé un peu le cours de votre vie, cette carrière.
Oui, c'est vrai, c'était totalement inattendu. Et il y avait ce projet qui était d'installer une carrière de sable, de granulat, etc., à l'entrée même du village. Alors on vous dit, et alors comment on va construire les routes, comment on va construire des bâtiments, etc., s'il n'y a pas... Tout le monde voudrait qu'il y ait des matériaux, mais personne n'aurait qu'on les prenne chez eux. Et oui, ok. mais on n'est pas obligé de les prendre là où la vie rurale est belle, agréable, tranquille, avec les klaxons de marche arrière, les tapis roulants, les 36 tonnes qui traversent le village. Donc on s'est un peu, on est monté au créneau et on s'est battu. Et évidemment, comme
mais il faut raconter ce que vous avez fait. Allez-y.
Voilà, j'étais une des figures un peu du village puisque j'avais cette notoriété que me donnait la chanson. Donc j'ai un peu pris la tête du combat. Et donc cette carrière de sable a vraiment été comme quelque chose de totalement inattendu dans ma propre carrière.
Donc vous avez fait mieux que ça. C'est que vous êtes présenté à la mairie et que vous avez été élu.
Mais oui.
C'est ça qui a changé votre vie, c'est que vous avez été le maire 4 mandats consécutifs.
Mes chemins de 4 mandats, voilà.
Vous adorez les calembours. Il y en a plein partout dans le livre. Vous aimez bien ça.
Vrai, j'adore.
Alors tiens, puisque vous parlez de ça, j'ai relevé la guitare, un instrument rebelle qui me renvoie sans cesse dans mes cordes. Je perdais le nord, mais ma boussole était à l'ouest. Vous faites le son avec l'ingénieux du son et cet aphorisme, l'homme descend du songe. Vous êtes très préoccupé par l'avenir de la planète, ça date pas d'aujourd'hui. J'ai retrouvé une interview de vous, Yves Duteil, de 2009, donc il y a 12 ans. Vous n'aviez pas de mots assez durs contre les Verts parisiens. Je vous cite, ils prétendent créer de la mobilité alors qu'ils asphyxient Paris, qu'ils rendent inaccessible aux Franciliens. Est-ce que ça s'est amélioré ?
Ben non, le principe de la mobilité, c'est de pouvoir aller et venir de façon pratique. Alors pour les Parisiens, c'est formidable, il y a le métro, le bus, les taxis, tout ce qu'on veut. Mais pour les Franciliens qui arrivent de l'extérieur de la ville, imaginez, moi je pars en tournée. Je vais partir avec ma guitare dans une main, ma valise dans l'autre et probablement mon sac et autre chose. Je prends un vélo, un Vélib, mais j'ai besoin aussi d'arriver dans la capitale avec mon véhicule. Il n'y a pas les parkings qui sont prévus pour abriter tous ces véhicules qui sont arrivés dans la ville pour prendre un autre moyen de transport. Donc tout ça, ça n'a pas été vraiment effectivement pensé de façon... Il y a eu dans l'histoire de l'urbanisme, et le fait de devenir maire vous apprend l'urbanisme de l'intérieur, il y a eu de grandes erreurs d'urbanisme qui font qu'aujourd'hui, on détruit des barres d'immeubles parce qu'on s'est aperçu qu'on obligeait les gens à vivre ensemble et que l'urbanisme, c'est la façon de ce fameux vivre ensemble qui le détermine. Donc j'ai appris l'urbanisme à travers ça, mais donc aussi le fait de vivre ensemble et comment prévoir que ça soit harmonieux.
Vous avez aussi d'autres missions politiques, pas politiciennes mais politiques, beaucoup plus importantes que ça. Par exemple, le président Jacques Chirac, vous aviez confié une mission officielle pour défendre la chanson française. C'est grâce à vous qui, en partie, la chanson française a été sauvée grâce au quota. Je veux dire, il y a peu de nations dont la chanson domestique, je veux dire, est aussi puissante. 40% de chansons françaises sur les radios, c'est en partie grâce à vous, Yves Duteil.
Je serais plus modeste que ça, parce qu'on a été quand même un certain nombre à lutter pour ça. En particulier, mon ami Jean-Pierre Lang, l'auteur des Corons, qui a été aussi avec nous locataire permanent de l'Assemblée nationale et du Sénat, nuit et jour, pour essayer d'inciter les parlementaires à nous aider, ce qu'ils ont fait. Et effectivement, c'était un combat qui fait qu'aujourd'hui, la production française existe encore, parce qu'il y a des pays où elle n'existe plus au plan national.
Exactement. Autre danger qui menace maintenant, c'est le streaming. Et je cite vos chiffres, c'est dans le livre. Le prix d'achat d'une chanson est passé de 2 euros en moyenne à 3 centimes et demi.
Ouais. Et c'est pire encore, parce que c'est même pas 3 centimes, c'est 0,0035 euros, quand c'est pas moins.
Et ça fait 3 centimes et demi.
C'est, alors vous avez raison,
j'ai fait le calcul. J'ai pris le chiffre dans votre livre
mais
je l'ai dit de manière plus simple.
Oui, vous avez raison. Et en fait, on a simplement oublié de demander aux producteurs quel était le coût de la production pour arriver à ça. À quel moment est-ce qu'on rentabilise une production quand on est un artiste et qu'on produit son disque ? Alors aujourd'hui, beaucoup d'artistes produisent leurs propres œuvres et il faudrait quand même se mettre autour de la table pour partager autre chose que des miettes.
Produire, ça veut dire acheter les instruments, payer l'ingénieur du son, avoir le studio, tout ça c'est un coût.
L'orchestrateur, voilà, c'est un univers qui a un coût de production énorme.
Vous ne manquez pas d'humour ni de résilience. En 1994, j'ai découvert, vous avez choisi de mettre en scène, pour mettre en scène votre concert, Neri, qui avait créé les VRP, aussi les Non-Tropos, c'était un groupe un peu parodique, et qui avait créé dans les années 80 la chanson Le petit pont de bois de la rivière Kouai, version revue et corrigée de votre chanson, qui se terminait par un bombardement kamikaze. Ça vous a fait souffrir, cette chanson, à l'époque ?
À l'époque, oui, j'aurais dû en rire. Mais je crois que l'ambiance était tellement à la dérision que c'était un peu la goutte d'eau.
Ouais.
Et en fait, 30 ans plus tard, il y avait prescription. On nous a proposé de travailler ensemble. On s'est rencontrés, seul à seul, lui et moi, Neri et moi. Et il s'est passé quelque chose entre nous qui montre qu'on aurait dû s'entendre même déjà à cette époque. Et il a été foisonnant d'imagination, de poésie, de réalisme scénique. Et on a fait deux spectacles successifs ensemble, ouais. Parce qu'on s'est très 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 bien entendu.
Ouais, vous auriez dû en rire, alors peut-être le seul regret de votre carrière.
Oh, il y en a quelques autres, mais je pense qu'on apprend aussi de ses erreurs. Je pense qu'il faut un peu de tolérance, l'humour, il faut être capable aussi de l'assumer venant des autres. Sauf quand ça dépasse les bornes,
et
parfois.
Et d'autodérision. Je reviens à ce livre, Le chemin de liberté, disons, de l'archipel. Il y a également la sortie d'un album et même d'un coffret de 4 CD, les chansons du livre, pas moins de 75 chansons. Et alors, j'avais encore jamais vu ça, Yves Duteil. À la fin du livre, il y a un QR code. Et alors, il suffit de scanner le QR code pour avoir toutes les chansons gratos. En gros, on scanne ici, c'est pour récompenser celui qui a dépensé 20 euros pour acheter le livre.
Non, en réalité, c'est la version digitale, mais digitale avec des plateformes qui sont normales, je dirais, qui offrent des abonnements, où les internautes peuvent prendre un abonnement et être en liaison avec les versions digitales des chansons.
Merci beaucoup Yves Duteil. Je le rappelle, Chemin de Liberté, ce livre aux éditions de l'Archipel. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média. Nous, on va se retrouver lundi, évidemment, pour l'émission avec le journaliste Martin Veil pour un documentaire consacré à la télé-réalité à l'occasion des 20 ans de ce phénomène. Et puis, l'actrice Julie Debona pour Plan B, la nouvelle fiction de TF1. Figurez-vous qu'elle y joue une animatrice radio et Julie Debona, elle a été 2 semaines en stage avec nous pour préparer ce rôle. On est ravis de la retrouver lundi. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff que vous retrouvez. Je vous dis à lundi, bon week-end, salut.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.